Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Bien manger aujourd'hui, ça semble un petit peu compliqué. On essaye de se diriger vers le bio, cuisiner soi-même, cuisiner avec de bons produits. Et puis, quand vous allez au restaurant, c'est pas toujours évident. Le fait maison, effectivement, il y en a un petit peu plus. Mais on n'est pas toujours sûr que les produits soient de qualité. Le livre que je vous propose aujourd'hui, c'est « La cuisine des gens qui s'aiment ». Alors, « s'aiment » du verbe « semer ». Mais ce pourrait être aussi « semer » ou « s'aimer » avec le verbe « aimer ». Pour nous parler de ce bel ouvrage où il y a magnifiques illustrations, l'histoire de ce restaurant et l'histoire aussi de son propriétaire, eh bien, je dirais un passionné, un amoureux de la nature, du bien manger. Et puis, pour faire ce qu'il fait, il faut aimer l'autre. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Arnaud Dalibot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour votre livre « La cuisine des gens qui s'aiment » aux éditions alternatives via Gallimard. Alors, tout d'abord, on va parler de vous. Qui est Arnaud Dalibot ?
Alors, moi, je suis d'origine, je suis, on va dire, parisien. J'ai grandi à Paris.
Oui.
Après ça, j'ai fait des études de commerce.
Oui.
Assez classiques, qui m'ont emmené aux quatre coins du monde, notamment à Tokyo et aux États-Unis.
Et finance et marketing, c'est ça ?
Oui, c'est ça, finance, marketing, pour une grande entreprise de vin et spiritueux.
Oui.
Et au fond de moi, j'avais quand même, comme vous disiez, cette passion de la cuisine et du bien manger, des beaux légumes, mm-hmm. que m'avaient transmis mes grands-parents.
Ah, les grands-parents.
voilà, ouais, quand je passais mes étés là-bas, ouais. À la campagne.
Je comprends.
Et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé en moi et dont je ne me rendais pas compte que c'était aussi important. Et finalement, au fil des années, ça a vraiment jailli comme quelque chose d'essentiel pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais dans mon travail dans les bureaux pour me lancer dans ce projet de restaurant et de ferme.
Mm-hmm.
Voilà, où je combinais vraiment cette idée de la restauration et de l'agriculture biologique pour être dans un but aussi de... Enfin, le restaurant, je dis que restaurant, c'est aussi...
Cantine, on dit la cantine mûre.
Parce que l'idée, c'est que ce soit vraiment, voilà, que ce soit accessible
à tous,
à tout le monde.
On va en parler justement.
Quasiment à tout le monde.
Oui. Alors, ce qui est intéressant dans votre processus, dirais-je, c'est que c'est vraiment ce que l'on appelle un cycle court.
Oui.
Hein, c'est ça.
Oui, oui. Tout à fait.
Du producteur au consommateur directement.
Ouais. La ferme est fait. En fait, c'est la. Je veux dire, juridiquement, si vous voulez, c'est la même société que le restaurant.
Oui.
Du coup, c'est complètement intégré. L'idée, c'était vraiment de créer un écosystème, si vous voulez, entre le restaurant, la ferme.
Oui.
Qui soit totalement intégré, où tous les processus aillent l'un avec l'autre.
Oui.
Et on trouve un équilibre entre les deux, où les produits de la ferme aillent au restaurant, qu'on décide des menus en fonction de ce qu'on récolte et puis qu'on renvoie à la ferme les retours des clients, et puis aussi l'idée c'est de ramener aussi les déchets organiques, etc., pour que ce soit composté, pour que ce soit trié par les poules et pour en faire du compost, et ainsi de suite, pour vraiment créer une boucle. Puis bon, c'est court, parce que déjà, même en termes de kilomètres, on est qu'à 30 kilomètres l'un de l'autre.
Oui.
Bon, à Paris, on ne peut pas faire plus court, je pense. Non. Quasiment pas.
Alors, la ferme, elle se trouve où, elle ?
Alors, et précisément, c'est à Prélambry.
Oui.
Prélambry, c'est un village qui est à 30 kilomètres au sud-est de Paris, dans la Brie, hein, comme son nom l'indique.
Oui.
Et c'est près de Tournan, Grasse-Armainvilliers, Brie-Comte-Robert, dans ce coin-là.
D'accord. Je vois. Et le restaurant, il est à Paris, lui ?
Le restaurant est à Paris, on peut dire en plein centre, près des grands boulevards, près des grands boulevards.
On peut donner l'adresse pour nos auditrices et auditeurs, hein, s'ils veulent s'y rendre.
Avec plaisir, bien sûr. Ouais. C'est au 6 rue Saint-Marc.
Oui.
6 rue Saint-Marc, dans le deuxième, voilà, entre la Bourse et les grands boulevards.
D'accord. Ouais. Et alors, vous êtes ouvert du matin, c'est pour le déjeuner, jusqu'à 18h, c'est ça?
Alors, on est ouvert de... On ouvre pour le petit déjeuner à 8h30 tous les matins.
Oui.
Et on sert le déjeuner à partir de 11h45 et on sert jusqu'à 16h. On ferme à 16h en fait. Le samedi à 17h.
D'accord. Samedi à 17h. Voilà. Alors, il est important de préciser que bien évidemment, tous les produits sont issus de la ferme, que c'est du fait maison, qu'on n'y trouve pas que des légumes. Hein. Il y a de la viande, du poisson, il y a des pizzas, il y a des quiches. Moi, j'ai le livre que j'ai sous les yeux là, qui est vraiment très beau avec de magnifiques illustrations. Il y a plein de recettes. J'en ai pas encore fait, mais je compte bien m'y atteler ce week-end. Alors, je sais pas quoi encore. Je verrai. Au-delà donc de la ferme et du restaurant, pour concevoir ce livre, c'était quoi? C'était partager cette envie, cet engouement, cette passion avec le lecteur et puis celui qui peut venir dans votre restaurant. Comment s'est passée l'idée du livre?
Ouais, alors c'est effectivement quelque chose que je me disais dans un coin de ma tête un jour, ce serait bien de pouvoir transmettre un peu, parce que bon, c'est vrai qu'au départ, quand je me suis lancé dans ce projet de restaurant, oui, de ferme, etc., bon, j'étais convaincu que ça pouvait marcher, mais comme j'avais pas vraiment de modèle avant moi qui avait réussi, il fallait déjà que ça marche.
Bien sûr.
Et puis je me disais si un jour ça pouvait, si ça marchait, bah, peut-être que je pourrais transmettre et essayer de donner l'idée ou d'inspirer d'autres personnes que ce genre de projet intéresse mais qui n'osent pas vraiment se lancer parce qu'ils se disent ça n'existe pas, ça ne doit pas être possible, ça va être compliqué,
oui,
etc.
Oui.
Et pouvoir vraiment... Enfin, l'idée première, c'était vraiment d'inspirer d'autres personnes à faire quelque chose, pas forcément la même chose, évidemment, oui, mais dans un peu dans cette veine-là, on va dire. D'autant plus que moi, mon but, c'est pas de faire une chaîne de restaurants.
Oui.
Il y a tellement qui me demandent, mais pourquoi t'en fais pas plein d'autres, etc. Moi, ce que je veux, c'est être dans le restaurant, c'est de voir les clients, c'est de partager chaque jour.
Mmh.
Voilà, partager et améliorer ça petit à petit, travailler avec l'équipe et également être à la ferme l'autre moitié du temps avec les deux personnes qui cultivent et puis mettre les mains dans la terre également autant que possible.
Mmh.
Mais pas d'être dans un bureau à regarder des courbes ou des...
Oui, je comprends. Des statistiques, des performances.
Ouais, voilà, non, le but vraiment là, c'est d'être au plus près possible de la vraie vie, on va dire.
Oui.
Et des gens, bien sûr, soit des gens avec qui on travaille, des clients, etc. Et puis, donc voilà, la première idée, c'était vraiment d'inspirer, d'inspirer d'autres gens pour essayer de s'aimer, pour que si ça peut faire un petit peu à mon échelle un petit effet boule de neige, bah,
oui,
ce serait ma,
bien sûr,
ma plus grande joie, la raison première d'avoir ce livre. L'autre raison en fait, c'était aussi parce que tout simplement les clients étaient quand même assez nombreux à nous dire, bah alors comment est-ce que vous
faire un livre de recettes
avec les recettes.
Ouais.
Vos recettes, elles sont quand même originales, on aimerait bien savoir. Et puis, je me disais aussi, effectivement, ce serait sympa quand même de pouvoir donner toutes ces recettes pour que les gens puissent les faire chez eux s'ils veulent, ou s'en inspirer au moins.
Ou reproduire reproduire quelque chose qu'ils ont mangé dans votre restaurant aussi, ça peut être sympa.
C'est ça, ou s'inspirer de ce genre de... Parce que je pense que c'est une cuisine, la cuisine qu'on propose, qui est... Je peux pas dire qu'on a rien inventé en cuisine, évidemment, mais c'est une cuisine qui est quand même beaucoup plus végétale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de cuisiner avec des légumes en matière, on va dire, essentielle.
Oui.
Plutôt que ce soit un accompagnement, que ce soit vraiment le centre.
Le centre du plat, voilà.
Et donc nous, voilà, on a quand même une expérience, on a mis au point toutes ces recettes en s'inspirant de recettes un peu traditionnelles. Parfois c'est des recettes plus originales, parfois c'est des recettes qui sont aussi inspirées de de plats des quatre coins du monde, qui étaient initialement avec de la viande, du poisson, pas forcément.
Chacun peut y trouver son compte. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y en a pour tous les goûts.
Exactement. Et puis du coup, c'est vraiment beaucoup plus, c'est beaucoup plus végétal. On utilise des épices, on essaie de faire avec discernement, évidemment. Mmh. Et puis, t'as des associations qui sont originales, qui sont bonnes, qui sont savoureuses. Oui. Et donc, il y avait beaucoup de demandes pour qu'on écrive tout ça. Et du coup, on a retranscrit, on a vraiment pris le temps de... Et
en plus, c'est un très beau livre. C'est vraiment un très joli livre avec des illustrations magnifiques. C'est très, très beau.
Oui,
très
beau. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour féliciter l'illustratrice
Yan Cheng. Oui.
Qui est vraiment une illustratrice formidable, qui fait des dessins vraiment très délicats, très jolis.
Oui.
Et pour moi, c'est d'autant plus envie de la citer parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré au restaurant, qui est venu au restaurant peu après l'ouverture, qui avait beaucoup aimé le restaurant, et qui venait régulièrement. Et puis après ça, donc j'ai appris à connaître ce qu'elle faisait. Mmh. Et je me suis dit, si un jour je fais un livre, c'est sûr que ce serait... j'aurais envie de le faire avec elle, parce qu'elle a vraiment cette sensibilité que j'avais envie de transmettre dans ce livre aussi.
Oui.
Et puis j'en profite aussi pour citer la photographe Kaufmann, qui a aussi travaillé chez Mur, qui est une photographe qui a beaucoup de talent, qui arrive à retranscrire, je trouve, l'âme de...
du restaurant,
Donc, qui fait des photos que je trouve très jolies et très, très sensibles aussi.
Oui. Alors, au-delà de cette ferme et de ce restaurant, est-ce que vous êtes vraiment, ce que j'ai envie de dire, au cœur des choses, au cœur du nouveau manger, de la prise de conscience, je dirais, des gens. Est-ce que vous avez noté ça et cette prise de conscience au travers de ces repas bio, naturels que vous faites? Les gens ont envie de ça. Je dirais pas un regard vers le passé parce que les gens mangeaient peut-être plus sainement parce qu'on cultivait plus et qu'il y avait plus de cultivateurs et de paysans. Mais est-ce que les gens prennent conscience que bien manger, d'abord, c'est agréable et c'est surtout aussi à des fins de bonne santé. Les gens prennent conscience de ça?
Aujourd'hui, j'en suis convaincu, ne serait-ce qu'en voyant l'affluence qu'on a chez nous.
Oui.
Même si je dis toujours, de toute façon, s'il y a du monde, c'est d'abord parce que c'est bon.
Oui.
Même si on était les plus... si on avait la meilleure éthique possible, mais que c'était pas bon, je pense qu'il y aurait pas grand monde malheureusement dans le restaurant.
Oui.
Il faut d'abord que ce soit bon, et ensuite, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens au départ, il y a 5 ans, donc on était, je dis pas qu'on était les premiers encore une fois, mais il y a pas grand monde qui était dans ce, c'était plus la mode du burger à l'époque, que des trucs de burger qu'on avait partout. Au début, je trouvais que les gens venaient d'abord pour les questions de santé, effectivement.
Oui.
C'était d'abord question de santé. La question écologique était, il y avait quelques-uns, mais c'était pas encore vraiment dominant. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a toujours évidemment la santé, le fait de manger des produits sains, de manger plus de légumes et moins de sucre, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi la question un peu écologique. On sent que les gens quand même sont de plus en plus sensibilisés.
Oui.
Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, je trouve, qui sont de plus en plus qui sont de plus en plus importants pour les gens qui viennent chez nous et qui sont très nombreux chaque jour.
Oui. Alors quand j'ai vu le titre, je me suis dit finalement il y a un jeu de mots, la cuisine des gens qui s'aiment. Pour faire de la cuisine, il faut aimer les autres. Et pour qu'on ait des produits dans l'assiette, il faut pouvoir semer. Et j'ai trouvé que ce titre était très beau, était très parlant. Et c'est pour ça que j'ai parlé de vous. Je vous vois comme un homme de passion. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est une journée type d'Arnaud Dalibot, parce qu'il y a la ferme qui est à 30 km, puis après, vous tenez à être au restaurant. Il faut vraiment aimer les gens. Et je trouve que, moi, ça m'émeut, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'individualistes, tellement d'égoïsme. Moi, j'ai assez d'admiration pour ce que vous faites.
Ah, c'est gentil, je suis entièrement d'accord avec vous que pour faire ce type de métier, la restauration, la cuisine et le
et la la, et la culture, le maraîchage, et la culture, oui.
C'est vraiment un métier de passion, c'est un métier où il faut donner beaucoup d'amour. C'est-à-dire que si on veut faire plaisir, c'est des métiers où on a envie de faire plaisir. Et en plus, oui, surtout quand on est en direct comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire la cuisine dans une usine ou de la culture, l'agriculture intensive, où on est quand même assez loin des gens qui vont consommer finalement nos produits. Là, oui, là, les gens, on les voit.
Oui.
Et on a vraiment envie de quelque part, on sait qui c'est, on a envie de donner tout ce qu'on a un peu dans le cœur, dans l'assiette et pour eux. Ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si on se donne tous ce mal, hein, entre guillemets, c'est que du bien, hein,
mais. Bien sûr.
C'est parce qu'on a aussi un retour et on voit les gens, on voit comme ils sont contents de venir, ils sont contents de faire ce qu'on fait, ils reviennent, il y en a beaucoup qui reviennent plusieurs fois par semaine.
Oui.
C'est vraiment un cercle vertueux, j'ai envie de dire ça. Mm-hmm. On donne beaucoup quand on cuisine, et quand on s'aime aussi, hein, vraiment enfin, quand je vois Marie à la ferme,
oui,
qui elle est vraiment là tous les jours avec Gaëlle,
mm-hmm,
il y a vraiment un acte d'amour clairement avec la terre, avec la nature, à sentir les légumes, à sentir le moment où on va les récolter, etc. Mmh. Le moment où on les sème, il y a quelque chose de très très profond là-dedans.
Oui.
Et le fait de pouvoir directement les préparer, enfin les récolter, qu'ils soient immédiatement cuisinés, préparés pour les gens qui viennent déjeuner chez eux. C'est encore plus encourageant et valorisant et satisfaisant.
Oui.
Et le retour qu'on a, encore une fois, est pour nous...
le plus beau cadeau.
C'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Et c'est ça, oui, qui nous fait...
Qui nous fait avancer.
Avoir envie de recommencer tous les jours. Parce que c'est quelque chose qu'on va recommencer tous les jours, sans arrêt. Mmh. Mais finalement, on s'en lasse jamais parce qu'il y a ça à la fin. Quoi.
Oui. Alors... À un moment où l'agriculture c'est compliqué, on voit que les agriculteurs ont du mal à s'en sortir pour certains. On pourrait vous qualifier d'agriculteur, de fermier, de paysan. Est-ce que vous avez conscience, conscience de cette difficulté? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que c'est une bataille au quotidien? Est-ce qu'il faut que l'agriculture, la ferme, se pense ou se repense ou se réinvente?
Sans doute, oui, moi j'en suis convaincu. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, pour moi, il y a deux modèles qui sont quand même qui s'éloignent de plus en plus. Et d'un côté, on a effectivement l'agriculture intensive, et moi je la, enfin, on la voit bien autour de nous, hein,
bien sûr, surtout dans l'abri, oui.
Ouais, dans l'abri, voilà, c'est un peu ce que je disais à un moment, je l'ai dit dans le livre, c'est-à-dire que ce qui avant était de 30 hectares est devenu 60 parce que c'est le voisin qui a racheté, puis il a racheté encore 60, c'est devenu 120, puis c'est devenu 250,
oui,
puis c'est devenu 500 hectares. Mmh. Et en fait, voilà, c'est juste des exploitations qui deviennent immenses, où finalement il n'y a plus vraiment de contact avec la terre, c'est-à-dire qu'on va,
oui,
pas juste avec le tracteur, on a les analyses, etc.
On met plus les bottes dans la boue, quoi.
Ouais, enfin bon, voilà.
Pas beaucoup.
J'aime pas critiquer parce que je sais que c'est un métier qui est pas facile.
Non. Et puis ils nous nourrissent. Très, c'est grâce à eux que nous mangeons quand même.
Ouais, exactement. Donc
non, faut pas l'oublier,
vraiment,
ça.
Non,
faut pas l'oublier. Au contraire.
De la pierre du tout.
Il faut les soutenir. Mais c'est sûr.
En tout cas, surtout pas aux agriculteurs. Après ça, c'est plus le point d'interrogation. Il est sur ce modèle-là, on va dire.
Mmh.
Et de l'autre côté, il y a un modèle qui est plus paysan, effectivement, où on voit tous les jours, comme nous. C'est-à-dire qu'on, tous les jours, on voit notre parcelle, on la connaît par cœur, on voit quand il y a un nouvel insecte qui est arrivé sur tel légume et on se demande, tiens, celui-là, on l'avait jamais vu, qu'est-ce que c'est, etc. Est-ce que c'est un signal de quelque chose?
C'est une conjugaison et avec la nature au quotidien, finalement.
Voilà. Donc vraiment, on sent les choses, on les comprend, on essaie, enfin, je sais pas qu'on comprend toujours tout, mais on essaye vraiment d'observer, on essaye vraiment d'écouter, de regarder. et d'agir de façon la plus subtile possible, on va dire, pour garder cet équilibre. Je parlais d'écosystème, c'est vraiment, voilà, c'est toujours garder cet équilibre. Mm-hmm. Et puis, y a des fois, évidemment, on perd quelques légumes parce que, voilà, parce qu'on attaque de tel ou tel insecte.
Oui.
Mais bon, voilà, on essaie vraiment d'anticiper tout ça, d'être le plus prévenant possible pour avoir à utiliser quasiment aucun traitement ou si on utilise, c'est vraiment de la phytothérapie, des choses comme ça, mais rien de chimique ou quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc, donc ça, c'est vraiment, c'est une agriculture qui est, je pense, qui est intensive dans le sens où on va vraiment aller chercher toutes les ressources de la nature pour chaque centimètre carré sans pour autant brusquer quoi que ce soit ou déséquilibrer quoi que ce soit. Et pour chaque mètre carré qu'on va cultiver, on va avoir un rendement finalement qui va être beaucoup plus élevé que si on n'allait jamais regarder, si on ne voyait pas ce qu'on faisait, etc. Et nous, clairement, on se rend compte que si jamais c'est allé un peu trop vite, on va oublier quelques coins du terrain, de la parcelle, et ces coins-là, comme par hasard, ils vont pas donner grand-chose parce qu'on ne sera pas occupé comme il faut. Mmh. Et finalement, on va s'éparpiller et le rendement va baisser au global parce qu'on va mal s'en occuper, alors que si vraiment on s'en occupe avec beaucoup d'intention, le résultat sera encore bien meilleur. Pour nous, pour notre santé, pour la planète, pour tout le monde.
Oui. Alors, je disais circuit court pour les légumes, puisque c'est votre production qu'on le retrouve dans l'assiette, mais je rassure, pour ceux qui aiment la viande et le poisson, il y a aussi cela. Alors, la provenance, comment ça se passe pour la viande et le poisson, pour les autres matières?
Alors, pour la viande, donc on essaye au maximum de travailler avec des producteurs en direct. Hein. Je prends l'exemple, par exemple, de producteurs de veau ou de bœuf qui est au-dessus de Paris. Et du coup, voilà, eux, ils ont leur propre production. Donc, ils abattent leurs bêtes au fur et à mesure. Oui. Et on peut être livré en direct. Mm-hmm. Et si jamais on n'arrive pas à avoir un producteur en direct de temps en temps, on a un boucher où on achète de la viande bio ou à minima la belle. Mm-hmm. Voilà.
Mm-hmm. Et pour le poisson,
aujourd'hui on achète à Rungis.
Mm-hmm.
Et en faisant bien attention aux saisons à la saisonnalité des poissons, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, bon, je pense qu'il y en a comme de gens qui le savent, mais les poissons, voilà, il faut faire attention à la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter d'acheter les poissons un peu n'importe comment.
Bien sûr.
Et évidemment, on s'interdit totalement les poissons, les espèces un petit peu dont les quotas sont un peu menacés, etc. Donc on fait attention et on s'adapte. Si jamais il y a une alerte, quoi que ce soit, moi je fais très attention à regarder, à suivre tout ça. Et le but, aussi bien pour la viande que pour le poisson, ce serait d'arriver à pouvoir tout acheter en direct.
Oui.
C'est un peu l'objectif, l'objectif encore à atteindre.
Alors, les recettes, elles sont changées régulièrement, il y a une remise à jour, il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies aussi. Comment ça se passe pour l'élaboration des recettes du restaurant, de la cantine Mur?
Alors, les recettes, on va dire qu'au début, donc il y a eu un énorme travail de fait sur toutes les recettes pour vraiment avoir à atteindre une vraie diversité. Donc on avait toujours un peu des nouvelles recettes toutes les semaines. Aujourd'hui, on continue à apporter des nouvelles recettes régulièrement. Mm-hmm. C'est-à-dire que peut-être toutes les semaines, il y aura au moins une nouvelle recette, sachant que tous les jours le menu change de toute façon.
D'accord.
Tous les jours notre menu, mais avec dans le menu, maintenant, une majorité de recettes qui ont déjà été éprouvés par le passé et qui vont revenir en fonction des saisons.
Tout à fait. Très important, dire aux auditeurs que respecter les saisons, c'est très important. Voilà, parce que si on mange des fraises, elles viennent pas forcément de France ou alors elles sont pleines de flotte. Il faut adapter sa nourriture en fonction des saisons. C'est important.
Bien sûr, ouais, effectivement. Et pour nous, la façon dont ça se passe pour... C'est vrai que nous, on est sûr, de toute façon, qu'on respecte la saison. C'est que, en gros, toutes les semaines, donc Marie, qui elle est toujours à la ferme, me donne les récoltes qui sont prévues pour la semaine suivante, donc dans un petit classeur, en me disant, voilà toute la liste de ce qu'on devrait récolter avec les kilos qui sont estimés. Et moi, en fonction de ça, je prépare le menu, soit avec des recettes qu'on connaît déjà, soit parfois je réfléchis à une
création, une
recette,
une idée,
des légumes qui arrivent, s'il y a beaucoup de tels légumes, je vais me dire tiens, ça serait bien de faire une nouvelle recette avec ce légume-là. Donc souvent je pars d'un légume et après ça c'est une création ça va venir d'une inspiration parfois d'un légume avec un autre légume de la même saison. On va dire, ah, tiens, ça c'est de là ensemble, ça pourrait essayer ça. Donc je fais un petit essai, et puis après ça, j'imagine quelque chose en allant puiser un petit peu dans des souvenirs, dans différentes choses.
Dans les envies aussi, les idées.
C'est quelque chose d'assez intuitif, on va dire, quoi, au départ. Mm. Et puis, donc je mets en place une recette, j'en discute avec les cuisiniers. Oui. On fignole un peu tout ça et puis on la prévoit pour la semaine suivante. Voilà. Mais c'est vrai que ça part toujours d'un légume qui est prêt à être récolté en gros. Et on dit tiens, celui-là on pourrait
le faire
en fonction des contraintes qu'on a aussi par rapport au type de plat. C'est-à-dire que c'est pas des plats, toujours des plats un peu de cantine, quoi. C'est jamais des plats avec la petite virgule, la petite présentation comme dans les restaurants gastronomiques.
Oui.
C'est toujours des plats assez généreux, assez familiaux. Et du coup, ce qui est important, toujours, c'est cette communication toutes les semaines où elle me dit en gros ce qu'on va prévoir, ce qu'on va récolter, ce qu'on peut récolter pour la semaine suivante. Et moi, je regarde le lundi, le mardi, le mercredi, je prépare toutes les recettes de salade, les recettes de plats, les recettes de pizza, les recettes, en fonction de ça. Et puis j'imagine des nouvelles recettes au fur et à mesure
du temps. Voilà.
Sachant qu'évidemment, les clients aussi attendent à ce que certaines recettes reviennent
parce qu'ils les ont appréciées, parce qu'ils les ont aimées. Voilà.
Voilà, exactement. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre faire revenir des recettes que les gens aiment et puis apporter une petite dose d'innovation au fur et à mesure pour toujours garder un petit peu l'excitation de la nouveauté. Quoi.
Oui. Mais en tout cas, ils peuvent retrouver soit les recettes qu'ils ont vues au restaurant ou de nouvelles, en tout cas, ou découvrir dans ce très beau livre la cuisine des gens qui s'aiment aux éditions alternatives. On va rappeler l'adresse de votre restaurant. C'est rue Saint-Marc, dans le deuxième, c'est ça ?
Oui, 6 rue Saint-Marc.
6 rue Saint-Marc, dans le deuxième. Les horaires d'ouverture, vous êtes ouvert toute la semaine ?
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h et le samedi de 11h à 17h.
11h à 17h. Et on peut manger toute la journée ou c'est non-stop ? Comment ça se passe ?
Alors, le matin de 8h30 à 11h45, on sert le petit déjeuner.
Ouais.
Et de 11h45 jusqu'à... On va dire qu'on sert jusqu'à 15h30, 16h le déjeuner. Mais avec le petit bémol quand même, je préviens juste, c'est vrai comme nous... On prépare à manger donc des quantités assez importantes pour que tout le monde puisse être servi. Mais en général, vers 14h, il commence à y avoir moins de choix. Le but, c'est qu'à la fin de la journée, on n'ait plus rien dans le frigo.
Et vaut mieux réserver avant, je suppose.
Vous avez réservé d'une place ?
Oui.
On prend pas de réservation parce qu'en fait c'est vraiment un système de un peu comme une cantine. Après c'est comme un self amélioré où les gens peuvent prendre à emporter aussi, donc il y a beaucoup de gens qui prennent à emporter, des gens qui travaillent dans le quartier et sinon les gens peuvent déjeuner sur place. Donc ça va assez vite, en fait c'est un système, on a un joli petit plateau en bois, on fait le tour, on a un comptoir central, on présente un peu tous les plats du jour.
Chacun se sert.
Les gens choisissent un petit peu ce qu'ils veulent. Mmh. Et à la fin, voilà, on a une formule, la formule classique qui est à 11,30 €. Mmh. Et en gros, vous pouvez, il y en a qui déjeunent pour moins que ça, pour 8 €. Mmh. Mais en général, ça se situe entre 8 € et, pour ceux qui ont plus faim, 14 €. Mmh. Voilà, donc ça reste des prix quand même très raisonnables par rapport
à... Oui, tout à fait.
Qualité. Mmh. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il y a du monde, que c'est très vivant comme endroit.
Ben, sans doute que vous aurez peut-être un peu plus maintenant de monde avec les auditrices et auditeurs de ces deux ailes. En tout cas, j'enjoins à chacun d'acheter ce très beau livre, La cuisine des gens qui s'aiment. C'est vraiment, vous racontez votre histoire, l'histoire de la ferme, du restaurant et toutes ces recettes aux éditions alternatives. Je vous remercie infiniment, Arnaud Dalibo. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis, j'espère qu'on se rencontrera un jour dans ce beau restaurant de la cantine Mur. Voilà.
Bah, merci à vous, puis j'espère vous accueillir.
Ce sera avec plaisir.
Si vous êtes les bienvenus, en tout cas.
Je vous préviendrai, c'est promis. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.